Mua. Frère, sœur, quoi que soit le combat et la lutte, quoi que soit l'expérience du désert, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous. Ce qu'il veut, c'est notre persévérance dans la foi. Seigneur, je ne te sens pas, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je ne marche pas d'après ce que je ressens, d'après les sentiments, mais je marche par la foi. Et je sais que la foi me mènera jusqu'à l'autre bord, dans la gloire éternelle, dans la félicité. Merci. Comprendre les temps de désert. Nous sommes si difficiles à comprendre les voies de Dieu. Et nous les interprétons selon notre propre fantaisie. Combien de fois notre impression personnelle et notre interprétation n'est pas selon la parole de Dieu ni la pensée de Dieu. Méfions-nous de la chair et de ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons nous ment à nous-mêmes. Nous basons notre foi sur la parole de Dieu. Et cette parole ne peut changer ni varier. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Et c'est une force pour celui qui y place sa foi. J'aimerais encore lire avec vous dans Job chapitre 23. Job chapitre 23 verset 8. À 10. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au Nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi, je ne puis l'apercevoir. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Oh, merci Seigneur. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mise à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Ce sont des passages que vous devez bien marquer dans votre Bible et les relire encore à partir du verset 1er du chapitre 23. Car là, nous avons l'expérience de chaque enfant de Dieu, ici-bas sur la terre. Le chemin du désert est souvent un chemin difficile, plein d'embûches, de pièges, de tentations, d'obstacles. Mais pourtant, c'est aussi un chemin. C'est aussi un chemin où de nouvelles expériences nous permettent de mieux le connaître. De nouvelles expériences nous renforcent dans notre foi et notre désir et notre détermination de ne pas abandonner et de ne jamais abandonner, quel que soit le prix. À tout moment, aujourd'hui, nous lisons comme des chrétiens sont persécutés. Sur l'Internet, il y a un site qui rapporte tout ce qui se passe dans le monde chrétien et toutes les persécutions que beaucoup ont à endurer. Frères et sœurs, nous sommes des privilégiés, nous, ici au Congo, pour la liberté de conscience qu'est la nôtre. N'abusons pas de cette liberté. S'il vous plaît, mais profitons de ce temps afin de faire connaître Christ, non pas seulement par la parole, mais par le comportement. Combien de nos frères, aujourd'hui même, souffrent? On vient de brûler deux églises des Assemblées de Dieu à Zanzibar. C'était même marqué sur l'Internet. À Zanzibar, par les islamistes. Vous pouvez aller partout à travers le monde, en Irak. Des centaines et des centaines de chrétiens quittent pour aller dans le Kurdistan à cause des pressions, des persécutions. Au Pakistan, c'est même pire. C'est comme cet homme qui était avec un groupe d'autres, et qui s'arrête quelque part sur la route pour prendre quelque chose dans une petite buvette. Il veut ramasser quelque chose par terre. Il avait autour de cou une chaîne avec une croix. Ceux qui étaient avec lui ont vu cette croix. Il a dû payer cette croix de sa mort sous les coups de ceux qui l'entouraient. Que de témoignages de ce genre ne pourrions pas nous dire? Ne soyons pas légers dans ces temps. Si nous avons une certaine liberté pour l'Évangile et nous l'avons au Congo, soyons conscients de ce qui se passe ailleurs dans le monde et conscients qu'on ne sait pas, peut-être un jour nous aurons à donner notre vie pour notre foi. Sommes-nous prêts déjà, dans cette liberté dans laquelle nous sommes, à donner notre vie en rançon pour le salut des âmes, en nous oubliant nous-mêmes pour le bien des autres? Ah, mais pasteur, la vie est dure. Ah, mais pasteur, on gagne peu d'argent. Ah, mais pasteur, je n'ai pas de voiture. Ah, mais pasteur, arrêtez de vous plaindre. Vous avez une liberté de laquelle vous devez profiter. Vous avez une liberté qui vous permet d'utiliser vos jambes et vos bras et votre bouche. Vous me voyez aujourd'hui conduire une belle voiture. Mais quand j'ai commencé le ministère, je marchais à pied. Et j'ai fait des centaines de kilomètres là-bas au Gabon, dans la forêt vierge, pagayé sur les fleuves, pour aller prêcher l'Évangile. L'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, dans un fétichisme, un occultisme abject, épouvantable. Il y a un commencement pour tout. Un commencement pour tout. Et vous, jeunes gens, jeunes filles, soyez des gens courageux. Je me souviens au début que j'étais ici à au Congo, et que je n'avais ni voiture, ni moyen de transport, et très peu d'argent pour vivre avec mes enfants qui ont failli être mis hors de l'école parce que, voilà, le Minerval n'était pas payé. Eh oui, même moi, mon délai. Il y a des gens qui pensent que quand on a cette peau-là, il y a plein d'argent, on a un gros coffre-fort rempli de sous. Je me souviens d'être remonté le fleuve, non pas avec une cabine, rien, sur le pont, avec les tabacs et avec les paquets de manioc, d'être remonté sur le fleuve et d'être collé sur des bancs de sable pendant 3 jours et 4 jours, et j'ai bu l'eau du fleuve. Et j'ai dit, Seigneur, je vais être malade avec cette eau. Non, je n'ai jamais été malade. Je mangeais ce qu'on me donnait dans les villages. Et je prêchais l'Évangile et j'ai vu des âmes être sauvées. Ce n'est pas la voiture et l'argent dans la poche qui vous donneront les âmes. Non, c'est la consécration au Seigneur et c'est le message que vous avez. Si vous avez un message, et ce message ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche, ce message c'est ce qui sort de la vie de l'homme qui est une démonstration du message qui est à l'intérieur. L'amour du prochain, voilà. L'amour, voilà un élément qui est la force du christianisme. Vous ne trouvez pas l'amour dans l'islam, mais vous trouvez l'amour en Jésus-Christ. L'amour du prochain, le respect du prochain, la patience pour le prochain qui est difficile même et opposé à vous. Vous continuez à l'aimer malgré tout. Aimer encore, c'est notre force. Et avec ça, nous vaincrons les puissances sataniques de haine, de destruction et de méchanceté. Quand je vois des jeunes qui commencent dans le ministère et qu'ils veulent tout avoir du jour au lendemain, ce n'est pas seulement au Congo, nous voyons ça aussi aux États-Unis, de ces jeunes gens qui sortent de l'école de théologie, et puis d'abord ils regardent quelle est l'église la plus grande qui a besoin d'un pasteur. Ensuite, quel est le salaire du pasteur? Ensuite, a-t-il une maison? Ensuite, a-t-il une voiture? C'est quoi ça? Regardez l'exemple des premiers pionniers de l'Évangile. Je suis actuellement en train de lire des livres qui me travaillent jusqu'au fond de l'âme, de ces pionniers qui ont payé un prix pour l'Évangile. Et à cause de ce prix qu'ils ont payé, des milliers ont été sauvés, des milliers ont trouvé le salut en Jésus-Christ. Sommes-nous là pour avoir une vie aisée? Sommes-nous là pour avoir le confort? Non, nous sommes là dans une armée, et nous sommes des commandos du roi des rois pour aller porter cet Évangile qui que nous soyons, aussi bien le prédicateur que le membre simple de l'Église. Simple, pourquoi simple? Non, il n'y a pas de simple. Il y a seulement une place pour chacun, c'est tout. Et Dieu demande que chacun accomplisse sa tâche. C'est pour cela qu'il a dit, vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Ah, oh, mais c'est difficile. Ah, oh, est-ce que je peux vivre avec ça? Ah, oh, et puis ceci. Ah, oh, et puis cela. Arrête de te plaindre. Regarde l'exemple. Jésus-Christ, il a quitté son royaume de gloire. Il a laissé de côté sa gloire. Il a laissé de côté toutes les magnificences dont nous ne pouvons même pas nous imaginer. Et toutes ces richesses, c'est quoi encore? Pour venir tel qu'un homme dans une famille en Israël, une famille très moyenne, quoique descendante de David, mais des ouvriers. Voilà ce qu'a fait Jésus. Nous devrions avoir honte de nous plaindre. J'en connais ici, même dans cette église, qui ont été des témoins pour Jésus-Christ au milieu de leurs besoins. Et c'est pourquoi le Seigneur les bénit et les élève. Des gens qui ne se sont jamais plaints. J'ai jamais entendu à mes oreilles leurs plaintes. Mais ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait avec fidélité. Voilà le genre d'homme que Dieu cherche et que nous cherchons. Le genre d'homme et de femme. Le chemin du désert est souvent un chemin difficile. Plein d'embûches, plein de pièges, plein de tentations, plein d'obstacles. Mais pourtant, c'est aussi un chemin où de nouvelles expériences nous renforcent dans notre marche, nous renforcent dans notre désir et détermination de ne pas abandonner, car nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Voilà la question. Je suis dans la bonne direction. Ma confiance n'est pas dans le pasteur Verneau ou dans l'église de la borne. Ma confiance n'est pas dans une organisation des assemblées de Dieu quelconque. Non, ma confiance est dans celui qui m'a donné un mandat à accomplir. Et s'il m'a demandé de faire ce travail, c'est pour une raison. Sa gloire, le salut des perdus. Pour se diriger dans la bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction, en route pour le pays de la promesse. Même si je suis dans le désert et que je me sens seul, et je suis seul, je ne suis pas seul. Il est avec moi, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Peut-il mentir? Oh, certes non. Quand nous serons sortis du désert, nous en sortirons enrichis, comme Job. Quand nous sortirons du désert, nous sortirons enrichis. Soyez sérieux, jeunes gens qui rentrez dans le ministère. Je suis chaque fois peiné lorsque j'entends un jeune homme qui est appelé de Dieu, qui est marié et qui a des libertés inacceptables avec les jeunes filles. Oh là 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 là! Pourquoi est-ce que je raconte ça? Et pourtant c'est vrai, hein? Croyez-moi, ça vient à l'oreille, ça. Ça revient toujours ici. Ça revient toujours ici. Et cela, je veux les serrer, croyez-moi. Est-ce qu'on peut avoir confiance d'envoyer cet homme quelque part loin, à travers le pays? Pas confiance. Soyez saints, car je suis saint. Tu as ta femme, tu viens avec ta femme. Terminé. Tu es pollué avec les jeunes filles et les dames, d'accord. Mais, il y a un mur et une séparation. Les libertés exagérées. Je déteste toujours quand je vois un pasteur, un jeune pasteur, qui parle avec des jeunes filles et qui commence à les tutoyer ou à les embrasser. Moi, je dis non. Moi, je ne crois pas au tutoiement. Ça fait tout de suite une liberté inacceptable. C'est comme ça que ça commence. On se tutoie, donc familiarité. Souviens-toi que tu es un prédicateur et un annonceur de l'Évangile. Alors, garde ta dignité.
Et souviens-toi des pièges de l'ennemi. Des pièges de l'ennemi. Je ne crois pas à cette superbe familiarité entre garçons et filles aujourd'hui dans notre génération corrompue. Ça finit mal. Ça finit mal. Et si Dieu t'a appelé, mon ami, poursuis ta course dans le désert et sois fidèle pour arriver au pays de la promesse. Le pays de la promesse. Quand nous sortirons du désert, nous en sortirons enrichis. Enrichis comme Job. Job disait, oh gloire à Dieu, pour la foi de cet homme au milieu de ses peines. La foi, il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mise à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Et pourtant, il est encore dans l'épreuve. Et pourtant, il est encore malade. Et pourtant, il a perdu sa femme et ses enfants. Et pourtant, il a perdu tous ses biens. Et pourtant, il est là, assis dans la poussière. Et pourtant, il n'y a personne qui le soutient. Personne, personne, personne. Voilà la foi. Dans le désert, dur, aride. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Amen. Amen. Quand il m'aura mise à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Ça, c'est le message et la voix de la foi. Voilà, toi qui peines aujourd'hui, toi qui te demandes pourquoi Verneau ne m'aide pas, pourquoi l'Église ne fait rien pour moi, pourquoi, arrête ! Pleure et crie comme Job. Tu connais où je me tiens. Tu connais ma route, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu connais mes besoins, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu connais mes maladies, je n'ai pas besoin d'en faire un étalage. Tu connais les injustices dont je suis l'objet. Seigneur, mais quand tu m'auras mis à l'épreuve, car cette épreuve ne vient pas de toi, mais tu l'as permise, alors il y a un but positif. Je crois qu'il y a un but positif dans ces larmes et cette peine que j'ai. Cette maladie est quoi encore? Et ta gloire sera quoi? De me purifier comme l'or et j'en sortirai plus fort qu'avant. J'en sortirai plus fort qu'avant. Notre vie ne dépend pas des années que nous avons faites sur cette terre. Notre vie dépend de celui que nous servons. C'est lui qui a l'autorité sur notre vie et nos années. Et nous vivrons tant que lui. Il dira, reste encore. Je t'appellerai un jour. Pur comme l'or. L'or qui a passé par le feu. Eh oui, bien sûr, tout l'or que vous pouvez posséder, c'est de l'or qui a passé par le feu. Sachons bien qu'aucun minerai, quel qu'il soit, aucun minerai sorti de terre ne peut être utilisé tel qu'il est. Aucun. Aucun. Que ce soit l'or ou que ce soit l'argent, que ce soit le fer, ou le cuivre, ou le cobalt, ou un autre minerai quel qu'il soit, il doit en premier lieu, écoutez bien, ce minerai doit en premier lieu être broyé. Il doit perdre sa forme première. Il doit perdre sa forme première pour ensuite passer par le creuset. Et là, dans le creuset, le feu va être intense. Eh oui, c'est la règle. Dites-moi un minerai qui sort de la terre qu'on puisse employer directement. Ça n'existe pas. Le feu va être intense. Il faut que le feu liquéfie le minerai. Oui, que le feu liquéfie le minerai. Et qu'une séparation se fasse entre le minerai et les matières inutiles, les matières non précieuses, les matières vulgaires, qu'on appelle scories. Voilà. On n'utilise pas les scories pour faire quoi que ce soit. Les scories, c'est un déchet. Et ce déchet était dans le précieux minerai. Fer, argent ou or, ça a été
dans ce minerai. Mais il faut séparation. On ne peut utiliser aucun minerai, extrait d'un minerai, sans d'abord le faire passer par le feu, afin que les scories soient ôtées, qu'il y ait séparation. Il doit avoir séparation. Autrement, c'est inutile. C'est ainsi que le précieux, c'est ainsi que l'utile qui se trouve dans le minerai pourra être utilisé et servir. Il est impossible que le minerai soit utilisé et puisse servir avant de passer par le feu. Sans l'épreuve du feu, le minerai est inutile. Moi, j'ai à la maison, j'ai trouvé au marché, il y a bien longtemps, des pierres brutes, du minerai brut. Dedans, on peut voir du cuivre, on peut voir de l'étain, on peut voir, je ne sais pas, toutes sortes d'autres minerais là-dedans. Bon, c'est une pierre un peu carrée comme ça, elle sert à tenir mes livres. Elle sert, c'est tout ce qu'elle sert. Et pourtant, elle a quelque chose de bon à l'intérieur. Mais il y a aussi des choses inutiles. Des choses inutiles. Mes frères, sœurs, dans tout ce que nous fabriquons dans le monde aujourd'hui, ce matériel, ces poteaux de fer, ces tôles, et que sais-je encore, ont passé par le feu. C'est sorti de la terre, des profondeurs de cette terre. Pour combien d'entre nous le désert a été comme un feu, comme une fournaise? Et nous disons, pourquoi Seigneur, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a encore trop de scories en toi. Quand j'aurai passé par le feu, je sortirai pur comme l'or. Oh Dieu, c'est mon désir. C'est mon désir que toutes les scories soient enlevées, qu'il y ait séparation, séparation, oui, séparation entre ce qui est vil et ce qui est saint. Pas de mélange entre le saint et le sale. C'est à pleurer de voir la conception de certaines personnes qui s'appellent pasteurs, et qui ne sont pas un exemple. On divorce, on se remarie, on se redivorce, on commet adultère. On s'amuse avec les filles et on se tient devant l'estrade avec la sainte parole de Dieu. Plein de scories, aucune valeur, tout est jeté, car Dieu n'aime pas les mélanges. Le désert a été pour beaucoup d'entre nous comme un feu, comme une fournaise. Mais souvenez-vous, s'il vous plaît, souvenez-vous de Sadrach, Mésach et Abednego dans le livre de Daniel. Ces trois amis de Daniel qui avaient été pris par Nebuchadnezzar et emmenés en Babylonie. Nebuchadnezzar avait fait une grande statue de sa personne. Le culte de la personnalité a toujours existé. Et il a appelé tout le monde, merci. Il a appelé tout le monde à venir au jour de la dédicace de la statue. Une belle statue en or, en métaux précieux, je suppose. Et tous les peuples qui étaient là, conquis par les Babyloniens qui étaient les dominateurs du monde d'alors, et qui avaient dominé le peuple d'Israël par la faute du peuple qui avait abandonné son Dieu. Dans ce peuple, il y a des hommes droits et justes, et Dieu les utilise quand même, oui, car ils n'oublient jamais les siens. Ils ont passé à travers le désert, ils ont fait la route jusqu'à Babylone. Ils sont là au milieu d'une société païenne. Que vont-ils faire? Vont-ils tenir? Ils savent en qui ils ont cru, et quel que soit le prix, ils resteront fidèles à celui dans lequel ils ont cru. Daniel, Sadrach, Mésach et Abednego. Ils ont la grâce de Dieu sur eux et ils ont des responsabilités dans le pays, car on a reconnu qu'ils étaient des hommes de valeur.
Oui, c'est vrai. Mais on veut les soumettre au culte national. Et lors de la dédicace, des milliers d'hommes et de femmes sont rassemblés. On amène la musique, on amène les militaires, les soldats, avec des parades et tout ça, et on donne l'ordre. Quand on jouera de la musique, tous se prosternent devant la statue. Mais Sadrach, Mesach et Abednego se souviennent de la loi de leur Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. La parole est dans leur cœur et la parole les autorise à désobéir aux ordres du gouvernement de Nebuchadnezzar. Les ordres de la parole de Dieu vont au-dessus des ordres des hommes, quels qu'ils soient. Et lorsque la musique a commencé, tous se sont prosternés. Mais là, on voit trois hommes qui se tiennent debout. Oh, ça se voit, tout le monde se prosterne, il y en a trois debout. Ha! On les amène au roi. Ils les menacent de tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Le roi dit, si vous ne vous prosternerez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente que j'ai préparée là-bas, vous voyez, pour punir ceux qui me résistent. Alors, vous vous soumettez. Autrement, vous êtes dans la fournaise. Et ils disent, nous ne savons pas ce que notre Dieu va faire. Nous sommes dans un désert. Ah, voilà. Nous sommes dans un désert. Dieu est silencieux. Dieu ne nous a pas parlé. Dieu ne nous a pas dit qu'il allait nous délivrer. Dieu n'a rien dit de cela. Nous ne savons pas ce qu'il va faire, mais nous savons une chose. Nous n'adorerons point tes dieux, mais nous adorerons le Dieu vivant. Qui a fait le ciel et la terre. C'est lui seul que nous adorerons. Car il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quoi que tu fasses, sache ô roi que nous ne nous prosternerons pas devant l'idole. Frères et sœurs, combien d'hommes et de femmes et même de pasteurs aujourd'hui préfèrent se prosterner devant l'idole simplement pour avoir la paix. Mais quelle paix vous aurez avec les hommes? Rien. Pas de paix. Chacun d'entre nous, individuellement, nous devons choisir le chemin et devant qui nous allons nous prosterner. Et le roi leur dit, bon, retournez, mais prosternez-vous cette fois, je vous fais grâce maintenant. Mais quand la musique sonnera, vous vous prosternez. La musique, à nouveau, les trois hommes restent debout. Waouh! Merci Seigneur. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Ils ne savent pas s'ils seront jetés dans la fournaise. Certainement qu'ils le seront. Peu importe. Si nous mourrons pour lui, eh bien nous mourrons pour lui. Et le témoignage sera sauf. Mais il n'y a pas de compromis avec mon Dieu. Il n'y a pas de compromis avec mon Dieu. Nebuchadnezzar envoie ses soldats. Jetez-moi ces hommes dans la fournaise. On leur lie les mains. On leur lie les pieds. On ordonne de chauffer la fournaise au maximum. Toutes les portes de ventilation sont ouvertes. On jette encore du carburant à l'intérieur. Et des flammes sortent. C'est tellement chaud que quand on ouvre la porte au-dessus, pour jeter ces trois hommes dedans, ceux qui les jettent sont tués par la chaleur. Rendez-vous compte. Tués par la chaleur qui s'est dégagée de la fournaise. Eh oui, Sadrach, Mesach et Abednego sont jetés liés les mains, les pieds dans la fournaise de Nebuchadnezzar. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Ils ne savent pas, mais ils savent ce qu'ils vont faire, eux. Obéir à ses commandements. Ils sont dans le désert, loin de leur pays, loin des prophètes, loin de l'influence de l'entourage qui suit le vrai Dieu. Ils sont une minorité, une toute petite minorité. Et là, dans cette grande foule, en ce jour-là, ils étaient que les trois Israélites devant cette foule de Chaldéens qui devaient se prosterner devant l'idole. Ils sont jetés, liés avec leurs vêtements dans les flammes. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Oui, ils étaient dans un désert. Mais quand tu es dans le désert, Dieu ne t'a pas abandonné, crois-moi. Dieu est silencieux, c'est vrai. Dieu n'a pas donné une vision, une révélation. Il n'a pas donné un message particulier. Non, il ne les a pas avertis le jour avant. Attention, ça sera très difficile, mais je serai avec vous, vous n'allez pas brûler. Non, il n'a rien dit. Silence! Dans le désert, c'est le silence. Oui, c'est vrai. Mais le silence parle plus fort que les discours. Lorsqu'on est avec un Dieu fidèle. Mais voici, lorsqu'ils sont jetés dans la fournaise, le quatrième homme est entré dans la fournaise. Alléluia. Le quatrième homme est rentré dans la fournaise avec eux. Et le feu a brûlé leurs liens. Ils se sont trouvés dégagés de leurs liens. Mais pour leurs vêtements et leur corps, il n'y avait pas de trace de feu. Pourquoi ? Car le quatrième homme a enlevé la puissance du feu. Frère, sœur, tu peux être dans le feu. Tu peux être dans la fournaise. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais où te tourner. Mais ne crains point. Il enlèvera la puissance du feu. On te harcèle à gauche et à droite. Tu ne sais plus où tourner la tête. Une certaine peur te remplit ton cœur. Rejette cette peur. Rejette. Tu es couvert par le sang de Christ. Tu es en sécurité entre ses mains. Et ce qu'il veut, qui se passera à travers toi, sera pour sa gloire. N'est-ce pas merveilleux si la gloire de Dieu peut être manifestée à travers toi à cause de ta persévérance dans le désert? Il ne t'a pas parlé, c'est vrai, mais tu sais comment il faut marcher parce que la Bible te le dit. Alors, tu places la parole de Dieu avant tout, même si tu n'as pas entendu une voix, même si tu n'as pas eu une vision. Tu sais ce que la Bible dit et tu marches selon cette parole. Et tu verras, il va honorer ta foi dans la parole. Le quatrième homme est venu dans la fournaise. Chaque fois que nous sommes dans une fournaise, il viendra à côté de nous. Il viendra à côté de nous au milieu de nos besoins matériels, nos besoins spirituels, au milieu des calomnies que nous avons à affronter, au milieu des peines et des souffrances qui sont les nôtres, il connaît, et au milieu de cette fournaise, il va descendre. Et même si on nous a liés d'une façon ou d'une autre, ces liens vont tomber par eux-mêmes. Dans Proverbe 25, verset 26, il est dit, « Une fontaine troublée est une source corrompue. » Pardon, une fontaine troublée est une source corrompue, tel est le juste qui chancelle devant le méchant. Ah, le juste qui chancelle devant le méchant, il est comme une fontaine troublée dont l'eau est sale et une source corrompue dont l'eau est inconsommable. Voilà. Tel est le juste qui chancelle devant le méchant. Pourquoi chanceler devant le méchant? Pourquoi chanceler devant Nebuchadnezzar, le premier homme de la nation, l'homme puissant qui a conquéri des espaces énormes? Pourquoi trembler devant lui? Pourquoi donc? Je suis rendu juste par l'œuvre de mon Dieu, dans mon cœur et dans ma vie, l'œuvre de Golgotha. Alors, je tiens ma position. Je ne chancellerai pas devant le méchant. Je ne serai pas un homme à faire des compromis simplement pour avoir la paix, simplement pour avoir un avantage, simplement pour me faire voir. Je suis désormais une fontaine troublée et une source corrompue si je fais ainsi. Non, le juste ne chancelle pas devant le méchant. Il ne chancelle pas dans son témoignage. Il ne va pas varier son témoignage pour faire plaisir aux autres. Non, c'est un homme de caractère. Et c'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes de caractère. Ils savent ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient. Serait-ce même au prix de leur vie, peu importe. Mourir, c'est revivre avec celui que nous servons. Le quatrième homme a ôté la chaleur du feu. Elle lui a enlevé sa capacité de destruction. À l'appel de Nebuchadnezzar, lorsqu'il vit à travers les fenêtres de la fournaise, quatre hommes qui marchent librement au milieu du feu, il est bouleversé. Et il crie, « Sortez !» Et ils sortirent. Les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, le quatrième est reparti. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel témoignage pour ces païens. Sommes-nous prêts à rendre des témoignages pareils pour toucher les cœurs des Nebuchadnezzar de notre époque? Ils sortirent indemnes et sans même avoir l'odeur du feu, c'est ce que dit la Bible. Il n'y avait même pas l'odeur du feu sur leurs vêtements. Merci Seigneur. Ils n'ont pas chancelé dans leur foi. Ils n'ont pas adapté leur foi aux circonstances. Ils savent ce que la Bible a dit et ils feront ce qui est écrit parce qu'ils veulent honorer leur Dieu. Ce quatrième homme, c'est la manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Ce même Jésus est avec ceux qui se sont mis en règle avec lui. Il ira avec eux dans le feu. Ce même Jésus. Il ira avec eux dans le feu. Dès que vous êtes jeté dans le feu, vous ne serez pas seul, croyez-moi. Ce feu peut être toutes sortes de choses, de fausses accusations au tribunal, des histoires terribles desquelles on vous accuse. Vous êtes absolument pur et net de la situation, mais on cherche à vous faire du mal, à vous faire du mal dans vos propriétés, à vous faire du mal dans votre famille, à vous faire du mal par toutes sortes de pressions extérieures. Et vous serez, pour finir, à un tel point énervé que vous n'allez même plus dormir la nuit comme il faut. Ça tourne et ça tourne et ça tourne dans la tête. Jette-toi à genoux et dis, Seigneur, le quatrième homme qui est venu de la fournaise à Babylone, oh, descends, s'il te plaît, et enlève la puissance de ce feu. Je ne veux pas brûler. Je ne veux pas brûler dans le jugement éternel en faisant des compromis inacceptables. Entends ma prière. Il dira alors au feu de se calmer, de se taire. Il ira dans le feu dès que vous y serez jetés. Comprenons ce qui se passe, s'il vous plaît. Car les temps n'ont pas changé et il y a toujours des fournaises avec des Nebuchadnezzar. Comprenons ce qui se passe. Dans le psaume 86, verset 11, il est dit, « Enseigne-moi tes voies, Éternel, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple. » J'aime cette parole. « Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. » Ô Jésus, que ce soit notre prière. Simplicité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, comme des enfants, nous croyons dans sa parole. Il est écrit, je sais que c'est vrai et je vais l'appliquer à ma vie. Voilà. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Craigne dans le sens de respecter, craindre dans le sens de reconnaître l'autorité et de se soumettre. Le pourquoi du désert, est-ce que nous le comprenons? Le bénéfice du désert, purifié comme l'or, est-ce cela que tu veux? Être rendu à l'image de Jésus-Christ, à l'image de celui qui a donné sa vie pour toi? Mais voilà, comprenez-vous les temps et les saisons? Les temps et les saisons. Il y a beaucoup de choses à dire sur les temps et les saisons. Lorsque nous sommes dans le désert, nous devons comprendre les temps et les saisons. Nous aurons la suite dimanche prochain. Seigneur, devant toi, nous nous courbons maintenant. Seigneur, devant ta majesté, ta puissance et ta grâce, nous baissons la tête, Seigneur. Et nous comprenons, Seigneur, que trop souvent, nous avons voulu adapter et faire des compromis pour échapper à la fournaise. Nous avons voulu faire des compromis pour échapper, Seigneur, à la peine, à la critique, au rejet et faire plaisir à Nebuchadnezzar, aux idolâtres, à ceux qui ne te connaissent pas. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à ceux qui ne te connaissent pas, mais nous sommes là, ô Dieu, pour te faire plaisir à toi. Car voici, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment l'avons-nous su? Comment l'avons-nous connu? Par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire de faux calculs. De faux calculs. Et à chercher à plaire aux idolâtres. Nous connaissons ce que dit ta parole. Donne-nous un caractère d'homme fort qui résistons à l'ennemi et au diable. Père, peut-être que tu passes dans le feu et que la fournaise est brûlante et que tu es menacé. Et pour échapper, tu fais des compromis. Repens-toi, demande pardon. Si telle est la vie, ta vie, avec des compromis inacceptables, lève-toi et demande pardon à Dieu. Car crois-moi, sa fournaise à lui sera pire que celle de Nebuchadnezzar. Lève-toi là où tu es. Seigneur, je fais des compromis. Des compromis pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et je sais que c'est mal. Pardonne-moi, Seigneur. Lève-toi là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je sais que si je suis fidèle, tu seras avec moi dans la fournaise. Et là, c'est merveilleux. Je n'ai rien à craindre. Mais si je reste dans le compromis, et si je reste dans la désobéissance, ta fournaise à toi, je ne pourrai pas y échapper. C'est pour cela, ô Dieu, je me lève maintenant à cette heure devant toi et devant mes frères, et je m'humilie pour les compromis inacceptables que j'ai faits. Des compromis dans l'honnêteté, des compromis dans la moralité, des compromis dans la parole et dans les engagements, des compromis que je ne devais pas faire avec des idolâtres. Et à cause de cela, Seigneur, j'ai perdu ma joie et ma paix. Je sais que tu es même, et devant toi, je reconnais, Seigneur, ces choses que j'ai faites, et je te demande pardon. Vous pouvez vous rasseoir. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui se sont levés avec courage à cette heure maintenant pour te demander pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, ils ont fait des compromis parce qu'ils avaient peur de brûler dans la fournaise qui avait été préparée pour ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'idole. Ô Dieu, je te prie de leur donner le courage et la foi et le caractère de résister, quelle que soit la tentation, de résister et d'être des hommes et des femmes que tu honoreras. C'est vrai, ils sont dans le désert, c'est vrai, tout est silencieux pour eux, c'est vrai, tu ne leur as pas parlé par une vision, un rêve ou quelque chose de spécial. C'est vrai, Seigneur, mais ils ont ta parole. Pourquoi attendre une révélation particulière qui viendrait d'en haut? Alors qu'ils savent par ta parole comment il faut se conduire, aide-les à obéir à ta parole, Seigneur Jésus. Car s'ils persévèrent dans l'obéissance, ils marchent en direction du pays de la promesse. Merci, Seigneur, que ta grâce repose sur cette assemblée au nom de Jésus.